Bonjour chers auditeurs, je me trouve ce matin avec le père Lestage qui est exorciste diocésain. Bonjour père Lestage,
Bonjour.
je vous remercie déjà pour de nous recevoir pour un sujet aussi troublant que celui dont vous exercez le ministère. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît?
Eh bien, Claude Lestage, je suis originaire de Saint-Sever. J'ai été à l'école tout près chez maîtresse en 1950. J'ai été enfant de chœur ici, au Carmel de Saint-Sever, où nous sommes, à l'âge de 7 ans, mais j'ignorais qu'un jour je viendrais faire ce ministère dans cette maison. Hein. Je suis prêtre diocésain depuis 45 ans, mais j'ai été donc vicaire et curé de paroisse. Et en même temps, je suis membre de l'Institut, prêtre de l'Institut Notre-Dame de Vie, dont le fondateur est du Carmel, c'est une œuvre carmélitaine. Et c'est sans doute pour cela que je me suis retrouvé et dans le ministère de l'exorcisme et également à loger, un jour par semaine, dans ce Carmel de Saint-Sever. Actuellement, je me trouve à Pissos et curé de la paroisse Sainte-Famille des Deux-Lèvres. Alors, depuis 20 ans, comme la plupart de mes confrères, j'ai dû ajouter une responsabilité supplémentaire. Nous en avons tous. Quelquefois, elles sont très prenantes, d'autres fois, elles sont discrètes. Et pour moi, je crois que cette charge est prenante et discrète. Voilà, c'est un ministère que je partage avec le père Michel Dubroca qui habite à Auce-Suzan et que beaucoup connaissent. Voilà, alors maintenant, il faut savoir que j'ai été nommé donc en 78 parce que l'évêque, c'est lui l'exorciste du diocèse. Mais cela demande tellement de temps. Eh bien oui, Jésus avait appelé les apôtres, il les avait envoyés dans le monde, il les avait envoyés pour guérir les malades, pour évangéliser, mais aussi chasser les démons. Parce que pour remplir un cœur de l'Esprit Saint, il faut qu'il soit déjà purifié. Chasser les démons. Et bon, les évêques n'ont pas trop le temps de tout faire, eh bien ils demandent à des prêtres, qui peuvent être aidés quelquefois de collaborateurs laïcs, des équipes, ce qu'on appelle les équipes d'exorcisme dans les grandes villes, donc de s'occuper de recevoir un peu des gens qui viennent demander de l'aide. Le mot exorciste vient d'un mot grec qui veut dire exéo, sort. Hein, c'est une prière que Jésus a faite. Évidemment, Jésus n'a pas demandé que ça, il a aussi demandé de s'occuper des malades, d'évangéliser, mais il y a ce ministère qui a été vérifié dès le départ. Les apôtres se sont rendus compte, et ceux qui étaient avec eux, qu'ils avaient des pouvoirs que Jésus exerçait, par exemple guérir les malades. Ils en ont été étonnés. Ils ont vu également qu'ils avaient le pouvoir d'évangéliser, c'est-à-dire que la parole qu'ils transmettaient rentrait dans les cœurs comme Jésus le faisait. Mais ils ont également constaté que des gens qui arrivaient très perturbés par d'étranges comportements, eh bien, ils se retrouvaient eux-mêmes. Donc, ils ont donc choisi également des exorcistes très tôt, qui accompagnaient quelquefois les services de l'évêque. Hein.
Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus justement sur cet étrange personnage qu'est le démon?
Le démon, ce n'est pas une représentation symbolique du mal. Ce n'est pas une bête hideuse qui peuple l'imaginaire collectif. Les démons, ce sont des anges déchus, révoltés, qui ont été créés bons. Même le mot Lucifer dit que c'était l'ange le plus proche du Créateur. Et pourtant, qui sont devenus mauvais par leur pleine volonté. Ils ont voulu s'opposer à la montée spirituelle des hommes par l'incarnation du Fils de Dieu. Alors, je peux dire que je vais lire ce qu'on trouve dans le catéchisme catholique. L'existence d'êtres spirituels non corporels que l'Écriture sainte nomme habituellement anges est une vérité de foi. Les anges ont été créés dès le début, appelés en vertu de leur intelligence à connaître la vérité, à aimer le bien d'une manière beaucoup plus totale et parfaite qu'il est possible à l'homme. Donc ils avaient beauté, liberté, intelligence, mais certains n'ont pas voulu reconnaître la souveraineté de Dieu. Donc ils sont des esprits obstinés et pour toujours orientés vers le mal. Ils ne recherchent que le mal, alors qu'ils avaient été créés pour refléter l'amour de Dieu. Ils ne vomissent que de la haine. C'est leur haine qui fait les flammes de l'enfer. Dieu n'a pas créé la mort, Dieu n'a pas créé l'enfer. Mais c'est parce qu'il leur a laissé la liberté, il la laisse à toutes ses créatures, eh bien, c'est leur haine qui fait ces flammes de l'enfer. Et il les laisse là jusqu'au jour du jugement dernier dont parlait l'Écriture ces temps-ci. Alors, beaucoup de théologiens ont dit que leur chute avait été causée par le projet de l'incarnation, je l'ai déjà dit. Une partie des anges aurait refusé de servir, d'adorer le Fils de Dieu fait homme. C'était une injure qui a été faite à leur nature angélique, qui est supérieure quand même à celle des hommes. Alors, je vous lis ce qu'il y a au chapitre 12 de l'Apocalypse. Il y eut un combat dans le ciel, Michel avec ses anges dut combattre le dragon. Le dragon lui aussi combattait avec ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Pour eux, désormais, nulle place dans le ciel. Oui, il fut rejeté le grand dragon, le serpent des origines, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges jetés avec lui. Et alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant ». Maintenant, voici le salut, la puissance, le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Et il est rejeté l'accusateur de nos frères, lui qui les accusait jour et nuit devant Dieu. C'est Jésus qui a gagné le combat sur la terre. Si Michel l'a gagné dans le ciel, eh bien, c'est Jésus qui l'a gagné sur la terre parce que lui, il n'est venu que pour servir. Voilà, alors dans l'Évangile, bien sûr, on va trouver avec Jésus eh bien, ce combat régulier avec le démon. Ça commence par les tentations au désert. Vous savez que le démon s'était approché de lui pour essayer de l'entraîner, puisqu'il voyait un homme, il s'était fait homme. Eh bien, il a voulu l'entraîner dans ses tentations, ses séductions de puissance, de réussite, mais c'était pour qu'il soit adoré. Et Jésus lui avait répondu, tu n'adoreras que Dieu seul. Et alors le diable l'avait quitté et des anges s'approchèrent pour le servir. On trouve souvent ce balancement dans l'Évangile avec le démon et les anges restés fidèles.
Peut-on croire au démon aujourd'hui et à la nécessité de votre ministère?
Ah oui, alors. Bon, le ministère d'exorciste a une histoire assez compliquée. D'abord, quand les premiers chrétiens, les évangélisateurs sont arrivés dans des pays païens, dans des pays animistes, eh bien, ils ont trouvé des populations, ça devait être encore vrai aux pays juifs, hein, qui essayaient de se protéger des malheurs, des coups du sort. Et pour le faire, eh bien, ils allaient voir des gens qui paraissaient compétents, ce pouvaient être des voyants, ce peut-être des guérisseurs locaux. Et ils avaient remarqué qu'il y en avait deux sortes. Il y avait, je dirais, le sorcier clair, comme on dit en Afrique, le ganga, le voyant. Mais aussi, il y avait le sorcier noir. Alors, comme on n'était pas très regardant, on pouvait se mettre sous la protection d'un mauvais esprit, l'esprit de ce sorcier noir. Et ce qui fait que le client, eh bien, entretenait ensuite un climat de peur, de suspicion. Et quand les missionnaires sont arrivés avec Jésus, fils de Dieu ne répandant que de l'amour, ben, ils ont fait naturellement ce choix d'aller vers eux, demander leur aide. Et par la prière, et aussi encore dans les pays d'évangélisation, les missionnaires ont remarqué que ces puissants esprits, en fait, étaient faibles et que la peur changeait de camp. C'est ce qui passe aujourd'hui dans certains pays musulmans. En silence, il y a des gens musulmans qui s'en vont vers le christianisme. Parce que le Dieu n'est pas à craindre. Il pardonne, il est miséricordieux. Bon, mais enfin, je reprends l'histoire de l'exorcisme. On est arrivé au temps moderne, au développement des sciences. Et on s'est aperçu que plus de troubles qu'on ne pensait n'étaient pas d'origine spirituelle. Bon, on en connaissait un certain nombre autrefois, c'était les lunatiques. Ben, les coups de lune, ça arrive encore aujourd'hui. Mais c'était pas pathologique. Alors, on s'est rendu compte qu'au XIXe siècle, les évêques qui étaient un peu embêtés se réservaient ce ministère, mais ne l'exerçaient jamais. Par exemple, du temps du curé d'Ars, le curé d'Ars n'a jamais fait aucun exorcisme. Parce qu'il renvoyait toujours à l'archevêque de Lyon, mais personne n'y allait. Mais par contre, lui, avec une petite bénédiction, avec un signe de croix quelconque, une invocation à Sainte, voyons, je ne sais plus comment s'appeler là, Sainte Philomène, hein, ou à la Sainte Vierge, l'Immaculée, déjà il la priait. Il s'était rendu compte que c'était très efficace et il calmait certains perturbés. Vers la fin du XIXe siècle, lui il est mort en 60 à peu près, 1860, 1870, il y a un spirituel espagnol, un mystique, le padre Paulo Iker. Il est allé voir le pape de l'époque, avant le concile, pour lui dire il faut restaurer l'exorcista, parce que c'était une invitation de Jésus qui lui avait dit, quand l'Église crée des œuvres, comme des éditions, des écoles, des foyers, des hôpitaux, elle s'attaque au cœur de Satan. Mais quand l'Église utilise ma prière d'exorcisme, disait Jésus, elle s'attaque à sa tête. Et lui, c'est un mystique, il lui en avait fait faire l'expérience avec des personnes aliénées, possédées. Bon, mais on arrive au XXe siècle, et alors, on avait encore ce qu'on appelait les ordres mineurs. Avant d'être diacre et prêtre, le clerc, le futur clerc, recevait des ordres, alors acolyte, lecteur, exorciste. Tout simplement pour dire que dans son ministère de prêtre, il devrait faire toutes ces charges-là. On est arrivé au concile, on a pensé qu'il fallait restaurer un petit peu la formation sacerdotale et on a supprimé ces ordres qu'on appelait mineurs. Et le concile Vatican II, hein. Ah oui, vous trompez, oui. Je suis au XXe siècle maintenant. Et voilà que il y avait quand même des gens qui étaient perturbés. Et où ils allaient? Et ils allaient dans des monastères, ils allaient voir certains curés, des moines, des curés dont on disait qu'ils avaient du pouvoir. Et en effet, avec une prière qui était dans tous les livres, mais ça se faisait en latin, eh bien, ils arrivaient à calmer des tourmentés. Moi, j'ai un souvenir, ma maman m'a raconté que jeune mariée, elle peut plus manger. On lui dit, méfie-toi, va voir le curé, demande le vieux. Elle a demandé au vieux prêtre en retraite au village. Il lui dit, tu viendras mercredi. Après la messe du matin, il lui lit une prière en latin. Elle revient à la maison alors qu'elle ne mangeait pas depuis des jours. Elle ne pouvait que boire. À 200 ou 300 mètres, elle a senti l'odeur de la soupe que faisait sa belle-mère. Elle a mangé de la soupe qui n'était pas encore cuite. Elle avait retrouvé l'appétit. Voilà. Donc, il y avait des gens quand même qui faisaient un certain travail. Alors, je vous ai dit qu'on avait donc supprimé l'ordre des exorcistes. Et puis, on va se rendre compte que, après le concile, il y a un développement de mouvements satanistes et occultistes qui vont obliger l'Église à s'interroger. Et le pape Paul VI, en 72, va dire, il a parlé des fumées qui étaient rentrées dans l'Église, les fumées de Satan, il dit, quels sont les besoins majeurs de notre Église aujourd'hui? La défense contre ce mal que nous appelons le démon constitue l'un de ses besoins majeurs. Voilà. Et sachant ce qui se passait dans le monde, il va, dans plusieurs de ses discours, rappeler la réalité du démon, et il affirmait même que ceux qui affirmaient son inexistence allaient contre la foi de l'Église. Oui. Moi, j'ai connu des exorcistes qui me disaient « Moi, je ne crois pas au démon » et qui écrivaient des livres là-dessus. Mais ils croyaient davantage au pouvoir des psychologues et des psychiatres et des psychanalystes. Ce qui sont nécessaires quand même, mais pas dans tous les cas. Et alors, c'est comme ça que dans les années 75-80, avec Jean-Paul II, eh bien, il y a des prêtres, des religieux qui ont remis progressivement en place dans l'Église de France des prêtres qui accueillaient certaines demandes et on a restauré le service des exorcismes. À tel point que dans les années. Alors on a fait d'abord des documents qui étaient des documents préparatoires, que j'utilise encore des fois, parce qu'ils ont beaucoup souffert. Et voilà le rituel des exorcismes de l'année 90. Voilà, vous l'avez vu. Il n'y a pas que ça maintenant, parce que de temps en temps, on fait d'autres livres pour que des prêtres qui ne sont pas exorcistes puissent répondre à certaines demandes. Voilà, vous avez donc, on peut bénir des maisons, on peut bénir des personnes malades, on peut bénir des enfants, etc. Vous voyez, tout est là-dedans.
Comment est-ce que vous exercez votre fonction ?
Bon, donc, moi, j'ai reçu, quand j'ai été nommé exorciste, j'ai reçu ce document de l'évêque. Il m'a demandé, l'évêque à l'époque, qui était Monseigneur Sarabert, d'aller faire des formations annuelles ou presque annuelles à Paris dans des assemblées générales d'exorcistes et nous avons donc des thèmes de réflexion chaque fois. Vous voyez ici, vous aviez les thèmes de janvier 2018. Voilà, donc nous avons notre évêque qui s'occupe de nous, c'est l'évêque de Grenoble. Vous voyez, ça, c'est première intervention, c'est l'évêque Monseigneur de Kerimel de Grenoble, qui nous a fait le ministère de l'exorciste dans la mission de l'église diocésaine. Et nous avons toujours un théologien, et chaque rencontre, il nous fait, voilà, l'exorcisme dans un chemin de conversion. Pourquoi? Parce que le grand rêve que nous ayons, c'est que le consultant reprennent un chemin de foi chrétienne, ce qui n'est pas toujours le cas. La personne qu'on a vue tout à l'heure, depuis qu'elle vient me voir, je lui ai dit, vous allez revenir à l'église, vous allez vous confesser, vous allez communier, et on fait le point chaque fois. Vous comprenez ? Mmh. On essaie de les remettre sur un chemin de vie chrétienne. On n'y arrive pas du premier coup, je préfère vous le dire, mais je ne peux pas être, moi, demander au Seigneur de soulager, d'éclairer, de libérer une personne, et me contenter quelquefois d'avoir une petite pièce. On ne paie pas l'amour. Comment j'exerce ? Tous les jours, je reçois des appels par téléphone. J'essaie de voir ce qui en est. Quelquefois, je vais donner des conseils par téléphone. Quelquefois, je vais essayer de prendre des rendez-vous ou je les renvoie à mon collègue l'abbé Dubroca, ce qui arrive aussi. Il y a aussi des personnes que je vois depuis des années, qui sont, mais j'en parlerai tout à l'heure de ces personnes-là. Donc, cette année, je pense que j'aurai vu 100 personnes nouvelles, différentes. Mais j'aurai eu peut-être 200 ou 300 interventions. Mais à certaines, avec des personnes que je rencontre depuis plusieurs années. Plusieurs fois, du moins. Je rencontre habituellement, très souvent, des femmes, mais je rencontre aussi des hommes. Je rencontre aussi également, on me confie quelquefois, des enfants. Et de plus en plus d'enfants, parce qu'il y a maintenant de moins en moins d'enfants catéchisés. Par contre, eux, avec leurs jeux vidéo, avec tout ce qu'on trouve dans les rayons dits religieux des librairies, on fait toujours un peu des histoires à pouvoir. Il y a des gens qui ont des pouvoirs. Il y en a peut-être qui les exaltent un peu, qui exaltent un peu leur désir d'être des personnages, comme moi, quand j'étais enfant, je rêvais d'être Tarzan, hein, je l'ai rêvé ça, oui. Et eux, c'est d'avoir des pouvoirs extraordinaires. Et oui, mais un jour, ils vont se retrouver avec des infestations nocturnes. C'est-à-dire, ils voient des personnes, il y a des choses qui se passent et il faut y aller. Il faut libérer ça. Mais à des enfants non catéchisés, c'est pas facile. Ils savent aucune prière. Bon, voilà. Alors, je les rencontre et la première chose que je fais, j'essaie de les écouter. Moi, je me suis préparé un peu des fois. Je me suis préparé dans la messe que j'ai célébrée avant, la lecture du bréviaire, pour être un peu disponible à une aide spirituelle. J'essaie de comprendre, bien sûr, les souffrances qu'ils me racontent et quelquefois, ils n'ont jamais confié à personne. Et je dois dire qu'une des première surprise que j'ai connue dès le départ, c'est comment la vie de l'homme peut être agressée dans sa profondeur, et notamment dans les capacités à aimer que nous avons naturellement, et qu'on peut en perdre le goût d'aimer. Je constate que parfois je suis le dernier recours dans des drames où je vois que le mal l'emporte sur le bon sens, sur la vérité, sur la justice. Vous savez, je me promène dans beaucoup d'affaires très sensibles et parfois très hautes, qui vont jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et on a l'impression qu'il y a des personnes qui sont comme des chiffons entre les mains des forces du mal. Alors ensuite, eh bien, dans un temps de prière, je vais essayer de ressaisir un peu quelque chose de ce qui m'a été dit et par des prières adaptées. Il peut m'arriver, selon les confidences, que je vais utiliser des prières que l'on fait sur des malades. Là, pour les prières pour les malades, là, j'en fais beaucoup. J'en fais également pour des personnes qui se sentent, mais je dirais un peu quels sont les modes d'oppression, qu'on appelle des prières de libération et quelquefois d'exorcisme, mais ce qui est plus rare. Alors je vous dis tout de suite que dans les prières d'exorcisme, il y en a certaines qui ressemblent à nos prières de la messe. Elles s'adressent généralement au Christ parce que c'est lui le sauveur, le libérateur des blessés de la vie. Hein, ce sont des prières comme des oraisons. On les appelle, dans notre langage, déprécatives. Mais il y en a d'autres qui vont s'adresser à Satan lui-même quand il y a certaines réactions. Et on va les appeler imprécatives. Voilà, je vais vous montrer ces prières si je les trouve maintenant. Voilà. Ici, vous avez une longue prière qui est déprécative. Voilà, Dieu créateur, protecteur du genre humain, regarde avec bonté votre serviteur, votre servante. Tandis que si je tourne la page, regardez, je t'adjure, Satan, ennemi du salut des hommes, reconnais la justice et la bonté de Dieu le Père. Vous voyez, on commence toujours par le Père, bien sûr, mais on va glisser vers le Fils parce que c'est lui le libérateur. Voilà, il y a donc deux variétés quand j'en suis à la prière de l'exorcisme. Hein?
Oui. En tant qu'exorciste, en fait, prêtre exorciste, est-ce que vous êtes touché?
Je vais dire, actuellement, pas trop. Mais dans les commencements, oui. La première fois que cela m'est arrivé, j'étais tout jeune prêtre et j'ai voulu aider une jeune femme. Elle avait un enfant. Il devait faire sa première communion, et voilà qu'on me dit, quelques jours avant, on me dit, 15 jours avant, elle a été hospitalisée, elle est à d'une clinique, qu'on appelle
psychiatrique,
elle ne pourra pas venir, c'est grave, bon. Alors, comme c'était important pour la famille que l'enfant fasse sa première communion, je viens ici, au Carmel de Saint-Sevé, consulter la mère prière de l'époque. Et elle me dit, méfiez-vous, faites attention à cette personne. Bon, et elle me donne l'exorcisme de Léon XIII, qu'elle avait écrit de sa main, que j'ai utilisé. La première fois que j'ai pris ça, un soir à genoux au pied de mon lit, j'ai été gagné d'ondes très très froides, j'avais le sentiment vraiment d'une présence très puissante. J'ai été jusqu'au bout. Et donc j'avais après plus tellement envie de relire cet exorcisme. Hein. Bon, la maman, elle a pu sortir de la clinique à temps pour assister à la première communion, j'étais content. Bon, après j'avais compris quand même qu'elle n'avait pas une vie exemplaire, j'en dis pas plus. Et moi-même, j'ai dû arrêter d'aller la visiter. Bien. Ensuite, une autre fois, je suis déjà nouveau exorciste, et voilà qu'une dame vient me solliciter d'aller la visiter, une veuve, parce que elle est agressée par ce qu'on appelle les maris de nuit. Ah, vous savez pas ce que c'est. C'est le sentiment qu'on appelle les démons incubes, succubes, bon voilà. une femme, mais un homme aussi, ça peut arriver, qui l'impressionne, une personne vient faire une relation sexuelle invisible avec elle. Bon, je commence une prière, et comme je ne savais pas trop, j'ai fait une prière de libération, et j'avais jamais fait cette prière, et je vais commencer à sentir un ankylosement des pieds, mais alors froid, et puis ça commence à monter. Oui, mais que ça n'arrivait à la poitrine, c'est que je pouvais plus parler. J'étais asphyxié. Heureusement, j'avais pensé à mettre des reliques sur la pochette de la chemisette. Et là, j'ai imploré tous les saints qui étaient là. Ah, tout est tombé d'un coup. Voilà, donc des choses comme ça. Autrement, j'ai eu d'autres ennuis, mais j'ai la chance d'être soutenu par des personnes de prière. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. Et ces personnes, elles prennent à ma place. Alors, il y a 8 ou 9 ans, c'était une affaire de macumba brésilienne. Et c'était un monsieur qui avait un peu déçu une prostituée brésilienne à l'étranger, et puis comme il venait pas la voir parce qu'il avait trouvé une autre, et alors il avait plein d'ennuis, à tel point, c'est tellement grave, qu'il est allé voir une voyante à Mont-de-Marsan. Et 2 jours après, il a un message, tu as reçu le cadeau? Parce qu'il en recevait, il pouvait pas changer son numéro vu son travail, son portable, il pouvait pas. Tu l'as reçu, mon cadeau, elle a reçu ce qu'elle méritait, elle ne fallait pas s'occuper de mes affaires. La voyante s'était tuée dans un accident de voiture. Alors il avait aussi entendu dans la nuit un rire sarcastique au fond de lui qui ne comprenait rien. Il dit, mais alors le mal existe. Il découvrait le mal. Il était athée franc-maçon. Voilà. Et alors donc, il vient me voir ici, un dimanche soir avec sa compagne. Et je vais faire une prière de libération. Le lendemain, il va entendre sur son portable un message audio horrible qui lui dit « Je t'aurai, je t'aurai, je t'aurai, je sais que tu as fait venir un prêtre, je t'aurai !» Voilà. Et moi, je suis rentré chez moi. Mais 2 ou 3 jours après, une dame m'appelle « Mais qu'est-ce que vous avez fait cette semaine ?» Et non, comme d'habitude, rien. J'ai un peu menti, là. Mais j'ai dit, mais pourquoi vous me dites ça? Mais c'est que, tel jour, j'ai été arraché du lit, j'entraînais les draps, les couvertures par terre, et quand j'ai réussi à prier, tout s'est arrêté. Et j'ai su que c'était à cause de vous. Le lendemain, je balayais ma cuisine, j'ai voulu ranger le balai au-dessus de l'escalier qui descend à la cave, j'ai été emporté dans l'escalier, je me suis rattrapé de justesse à la rambarde. Voilà. Alors plusieurs fois, j'ai été protégé par des personnes comme ça qui ont pris quelque chose à ma place. Voilà. Mais habituellement, je crois que le démon ne se venge que par les tentations, j'en parlerai tout à l'heure.
Sur quoi porte votre attention pendant la rencontre?
Alors d'abord, les gens, ils voudraient voir un guérisseur. Ils voudraient voir un voyant, ils veulent m'apporter des photos. Je dois leur dire, je ne suis pas un guérisseur, je ne suis pas un voyant, moi je suis un croyant. Alors j'accueille leur histoire, et en me présentant comme croyant, je vous ai dit qu'il faut beaucoup écouter. Alors, n'étant pas ni psychologue ni psychiatre, moi je parle pendant la rencontre. Parce que quelquefois les gens voudraient ne raconter que leurs émotions. Et je leur dis, bon, d'accord, on va en parler après, mais commencez à me raconter les faits. Comment ça a commencé? Qu'est-ce qui vous est arrivé comme fait? Et après, on ajoute leurs émotions qui sont quelquefois, ils en sont envahis, quoi. Ils ont peur. Donc, je reformule les choses. Je constate donc, quelquefois, des personnes âgées n'avaient pas prévu de vieillir. Des personnes malades n'avaient jamais prévu qu'elles seraient un jour malades. Des personnes qui avaient tout géré dans leur vie s'aperçoivent un jour qu'ils perdent pied devant certains problèmes. Ils n'avaient pas prévu. Et alors ils ont entendu aussi quelqu'un qui leur dit « Mais si on vous avait jeté un sort ?» Et c'est pour ça qu'ils viennent. Donc il faut leur redonner un peu de la force à leur espérance pour vivre ce qu'elles n'avaient pas choisi. Malheureusement, certains y sont déjà passés entre les mains de certains guérisseurs ou d'exorcistes laïcs autoproclamés, et qui ont exercé leur art, mais avec force, cris et conjurations. Alors quelquefois ça les a soulagés dans un premier temps, mais après ils se sont sentis remplis de troubles plus graves qu'avant. Et quelquefois, ils ont ramené des puces à la maison. Ça m'est arrivé, j'ai vu des appareils qui se mettaient à marcher, alors qu'ils étaient éteints, ils se mettaient à marcher, mais alors au maximum, pendant que moi, je quittais la pièce. Je revenais, voilà, etc. J'ai connu ça. Donc, ils attendent autre chose qu'un discours de psychologie. Hein. Il y en a qui vont dire... Je suis pas venu pour vous entendre faire le psychologue, puisque moi, j'en fréquente certaines depuis 10 ans. Mon prédécesseur m'avait dit une phrase que j'ai gardée, c'est le ministère le plus pauvre que j'ai jamais exercé, on sait jamais ce qu'on fait. Et au début, bien sûr, quand je voyais arriver ces gens avec leur vision magique, superstitieuse, la vision chrétienne que je voulais leur proposer ne semblait pas peser beaucoup. J'ai aussi vu dans des souffrances dont j'avais pas tellement idée. Et quand même, me suis rendu compte que il y avait des effets à ce que je croyais être pauvre. Ma pauvre prière, mes pauvres paroles avaient quelquefois pas de suite, mais après. Plusieurs fois, j'ai des gens qui viennent me voir, mais j'ai dit, mais pourquoi venez me voir? C'est telle personne qui est venue vous voir il y a 3 ans ou il y a 5 ans. Et alors? Ah, mais si vous savez le bien que vous leur avez fait. Oui, mais me l'avez jamais dit à moi.
Quels sont les critères qui peuvent dire qu'il y a action du démon?
Alors, je vous ai déjà dit que très peu de gens peuvent être vraiment possédés intérieurement. Des gens qui viennent me voir, parce que je crois que des gens qui viennent pas me voir, il y en a plus qu'on ne pense. Hein. Mais on peut subir 4 agressions de formes différentes. La première, c'est la tentation. Nous la connaissons tous. Quand nous cédons par faiblesse à un penchant, et que nous regrettons après. C'est-à-dire que dans le temps de la tentation, le démon, qui est un esprit, qui peut pénétrer notre esprit, peut nous présenter un mal, mais sous l'apparence d'un bien. Et ensuite, quand on l'a accepté, bien, il vient nous le reprocher, il vient nous accuser. Mais nous savons que Dieu ne lui permet pas de nous tenter au-delà de nos forces. Que Dieu nous donne des moyens de lutter contre ces tentations. Par la vigilance, attention, qu'est-ce que je fais? Par des sacrements, par la prière. Moi-même, je dois le vivre, ça. Et je dois donc le rappeler aux autres. La tentation. Après cela, c'est l'obsession. L'obsession, c'est une tentation très forte, dont je ne connais pas la raison, avec une idée fixe dont on n'arrive pas à se débarrasser. Elle peut nous pousser à des actes graves. Par exemple, le meurtre, le suicide. C'est à la fois une attaque intérieure, comme la tentation, mais c'est aussi une attaque extérieure. La troisième, c'est la vexation à une série de maux qui portent atteinte à la santé. On a une maladie, mais les médecins disent, je ne vois pas pourquoi vous êtes malade. Le travail... On va avoir tout d'un coup des ennuis au travail. Ça peut venir de collègues, ça peut venir du matériel, voilà. Les biens. Les garagistes ne comprennent pas pourquoi vous lui amenez la voiture. Des relations affectives, il peut y avoir des ruptures incompréhensibles. Et bien sûr, la vie spirituelle, on n'a plus envie d'aller à l'église. On n'y trouve plus rien. Alors, quelquefois, il peut ajouter, dans certains cas, des bruits terrifiants, des manifestations, des apparitions. On appelle ça des attaques extérieures, la vexation. Il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir quand même des hallucinations qui peuvent être causées par un début de maladie mentale. J'ai pu penser que certaines personnes commençaient à avoir une tumeur au cerveau et je ne m'étais pas trompé 2 ans après. Elles en sont mortes. Et enfin, la quatrième, bien sûr, le quatrième critère, c'est la véritable possession. Donc, c'est une emprise violente opérée par Satan depuis l'intérieur de la personne pour la soumettre à son pouvoir. Alors, il faut savoir quand même qu'il ne peut pas tout prendre. Notre âme spirituelle, elle est toujours libre parce qu'elle est habitée par la Sainte Trinité. Mais Satan va savoir utiliser des organes, des membres du possédé pour pouvoir agir, se mouvoir, parler sans que celui-ci puisse l'en empêcher. Il est prisonnier, il va tout faire, mais il peut pas l'empêcher. Alors je vous lis une parole, un jugement de Jean-Paul II. Même si le discernement n'est jamais facile de la possession, nous ne pouvons pas nier que pour nuire et porter au mal, Satan ne puisse parvenir à des manifestations de sa supériorité.
Alors, quels sont justement les signes de possession?
Voilà, alors il y en aurait, on en nomme toujours quatre dans dans notre formation. D'abord, parler des langues inconnues ou comprendre des langues inconnues qui lui sont parlées. J'entends quelquefois, par exemple, un exorciste de Paris, il y a 2 ans, eh bien, il traitait une personne, une portugaise, femme de ménage, et lui, il est d'origine hollandaise. Il a dit, je vais lui faire une prière en hollandais. Oui, la femme lui a répondu en parlant un meilleur hollandais que lui. Voilà, parler des langues inconnues, ou les comprendre. Ensuite, il y a révélé des choses cachées ou lointaines. Par exemple, qui a fait quoi? Alors, il m'arrive, moi, quand je me pose des questions, eh bien, il m'arrive de demander, en utilisant une prière imprécative au démon, de me dire, alors bien sûr, je lui dis, au nom de tous les mystères du salut, l'incarnation, la rédemption, la mort de Jésus, la résurrection, l'ascension, la Pentecôte, je lui dis, digmi, digme nomen tuum, digmi qui nomen tuum, dis-moi ton nom. Et j'ai interrogé, je me rappelle, une dame très pratiquante, très chrétienne, et qui se désolait. Elle attendait son mari toute la journée parce qu'elle travaillait à la maison, lui travaillait à l'extérieur, et quand il revenait le soir, elle éprouvait de la haine vers lui. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors on fait une première prière un jour, et elle me bousculait pendant la prière, quand je faisais des prières de libération, elle me rejetait, mais alors. Mauvaise, je l'avais jamais vue comme ça. Alors je lui donne un autre rendez-vous, et là je vais dire, là cette fois, je fais un exorcisme. Mais et là, elle ne branche pas, mais je lui pose la question, dis-moi ton nom. Et elle se met à faire le coq. On fait un coquelet, hein, mais j'étais pas un poussin. Hein. Alors, je me suis méfié, j'ai dit, elle doit comprendre le latin, elle a entendu un peu. Alors, je suis passé dans des litanies de Serge, je suis passé vers des prières à Marie, j'ai d'autres prières. Et je recommence. Et elle se remet à faire le coq. J'ai fait ça 3 fois. Et quand elle a été calmée à la fin, j'ai dit, mais vous avez remarqué ce que vous avez fait? Mais oui, je comprends pas. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Et je lui ai dit, mais dans votre famille, vous avez une partie de la famille qui est en Martinique, là-bas ils font le sacrifice du poulet. Vous n'avez jamais entendu parler qui vous aurait fait ça contre vous? Oh, le poulet! Et elle me dit que avant que ça commence, les problèmes là de haine envers son mari, avec lui, ils avaient refait une pelouse, ils avaient enlevé des arbres, ils avaient planté d'autres, et au pied d'un arbre, elle trouve une taupinière. Elle prend un sarclet, elle ouvre ça, un poulet enterré. Elle avait pris, elle avait dû le mettre à la poubelle. Oui, mais elle l'avait touché. Elle l'avait touché. Voilà. Alors, bien sûr, on a parlé, qu'on voulait quand même, il y avait, depuis son mariage, il y avait un monsieur qui voulait diviser son couple parce qu'il la voulait à elle. Et alors, ce monsieur, bon, il est devenu très malade, il est mort. Et alors, cette fameuse femme a regardé par Internet, les gens qui avaient envoyé des condoléances. Voilà, aux pompes funèbres. Et elle avait lu des condoléances. C'était signé 6, 6, 6, 9. Elle s'était rendue compte que lui ou sa femme consulter un sorcier. Voilà. Voilà, donc je n'étais à révéler des choses cachées ou lointaines, vous voyez. Donc quelquefois, oui, quand on voit ça, on se dit, il y a quelque chose là. Elle va mieux maintenant, je peux vous le dire. Ensuite, il y a manifester des forces supérieures. Donc quelquefois, on apprend qu'un enfant de 6 ans, eh bien, il peut mettre deux adultes par terre. Ouais. Moi-même, j'ai eu à bloquer une personne qui avait ouvert le gaz dans une maison. Je lui avais sauté dessus parce que les gendarmes n'arrivaient pas. Et il est tombé sur un lit et il avait les deux mains derrière le dos. J'en ai profité, j'ai pris les deux mains, j'ai dit, toi, je ne vais pas te lâcher encore. Mais une force. Heureusement que les gendarmes sont arrivés dans les 5 minutes. J'aurais pas pu tenir, je pouvais plus tenir. Tellement il y avait une force, c'était du fer. Enfin, la dernière, c'est une forte aversion pour Dieu, pour la très sainte Vierge Marie. Alors, ça peut être Jésus, ça peut être les saints, l'Église, etc. Hein? Alors là, je puis vous dire que le nom de Marie, il est très puissant. Alors, je vais vous raconter. Vous permettez que j'aborde un peu d'histoire?
Ah oui, oui, au contraire.
Voilà. Alors, j'étais dans un village, j'avais un presbytère à un étage, mais assez long. J'avais mon bureau, je vais dire, complètement à droite. Et voilà que j'avais un voisin. Je l'avais contrarié parce que j'avais dû aller le bloquer, lui sauter dessus. Il avait ouvert le gaz, il voulait faire sauter sa famille, quoi. J'avais réussi à rentrer, j'avais réussi à lui sauter dessus. Et on s'était retrouvés tous les deux, enfin, je l'avais ceinturé, quoi. Les gendarmes étaient arrivés, bon. Et après, il m'en voulait beaucoup. Le soir, quand il voyait de la lumière à mon oratoire, il connaissait ma maison, je l'entendais qu'il m'insultait. Et une nuit, j'avais entendu qu'il disait « Marie n'est pas vierge ». Et voilà que quelques jours plus tard, je suis en train de faire une conférence en urgence, parce que le lendemain, je vais faire une conférence à Agen avec du grand monde devant moi. Et voilà que il arrive au pied de mon bureau, là, il est en bas, et il commence à me dire des choses qui sont pas très belles. Alors moi, je quitte mon bureau et je m'en vais à l'autre extrémité de la maison, et par une fenêtre, je l'observe. Et je me souviens qu'il m'a dit « Marie n'est pas vierge ». Alors, je prends mon chapelet et aussitôt, il se met à réagir, il se met à reculer comme s'il était dardé de coups, d'épingles, je ne sais pas. Il recule, alors avec force mot grossier, il va me dire « ça suffit, arrête, 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 ça suffit ». Mais il recule caché lui à 40 mètres. Bon, j'ai du travail, je reviens à mon bureau, mais aussitôt je l'entends qui retraverse les rues, la place. Je reviens à mon poste de combat. Mais je me dis, mais c'était curieux tout à l'heure, pourquoi il s'est mis à faire ça? J'avais cru qu'il avait fait une crise. Je le regarde m'insulter un moment, et puis je reprends mon chapelet. Aussitôt, il a repris les mêmes réactions. Et j'ai attendu qu'il rentre à la maison. Et là, j'ai pu travailler. Le nom de Marie. Et une autre fois, c'était un ancien camarade de primaire qui était venu me voir. Il était au souvenir de notre enfance, on avait mangé ensemble, on avait ri de toutes nos bêtises. Et après, on avait parlé de la vie adulte, et là, il voulait me faire entrer dans les milieux économiques et politiques de mon département. Moi, je lui ai dit, ce qui m'intéressait, c'était d'ouvrir les portes des cœurs. Ça me suffisait. Il n'avait pas été content. J'avais voulu parler de sa famille et il s'était mis à dire beaucoup de mal de sa maman. Je savais qu'elle était, elle s'occupait encore dans l'église, qu'elle tenait l'orgue. Je savais qu'elle faisait partie d'un groupe de rosaires. Alors là, il a été très virulent contre elle. J'ai su plus tard par elle quand il avait divorcé, elle était restée en bon terme avec sa belle-fille et elle s'était occupée de ses petits-enfants. Ça ne lui avait pas plu. Et alors, à un moment, parlant de sa maman, il m'a dit tout d'un coup, « Hé, Marie n'est pas vierge !» Et moi, je suis le fauteuil en face, avec le sourire, je dis, « Ah, pour moi, tu sais, elle est toujours vierge. Avant, pendant et après l'enfantement, aussitôt !» Quand j'ai dit pendant, il s'est levé d'un bond, je l'ai eu à 1,50 m, le visage complètement transformé, dans une colère épouvantable. Il veut parler, mais il n'arrive pas à parler, il griffe l'air devant moi avec ses doigts écartés, il griffe l'air. Et au moment où je crois qu'il va me sauter dessus, il est éjecté de la maison, il est éjecté de la pièce. Il est revenu 10 minutes après, il a peut-être été fumer une cigarette, je ne sais pas. Sa compagne devait être habituée, elle n'avait pas bronché, moi non plus d'ailleurs. Mais j'avais été voir le vieil exorciste du diocèse, et je crois que ce jour-là, j'aurais pas dû y aller, je me suis fait remarquer. Voilà, j'ai été nommé à cause de ça après. Voilà.
Quelles sont les causes de ces infestations subies ?
Ah ben d'abord, il y a la méchanceté de certaines personnes. Il y a des gens qui sont méchants. Quelquefois dans les actualités, on voit des procès de tueurs en série et on observe des âmes froides qui n'ont aucun regret parce que dans ces âmes, il n'y a plus d'amour, vidées de tout amour. Donc il y a des personnes qui prennent plaisir à faire souffrir d'autres personnes. On voit quelquefois dans les bureaux, dans les entreprises, voilà. Des rapports où il y en a qui sont contents, ils prennent plaisir, ils existent en faisant souffrir. C'est exactement vrai dans les couples, parce qu'il y a beaucoup de pervers narcissiques. C'est souvent des hommes, mais il y a aussi des femmes. Voilà. Alors, il arrive également que tout le monde n'est pas d'accord tellement avec certaines alliances. Alors, un jour de mariage, on peut être maléficié. Un jour de baptême ou de naissance, on peut être maléficié. On a fait bâtir une nouvelle maison, et bien par jalousie, et bien on peut avoir subi quelques malédictions sur la maison.
Vous dites que pendant un baptême, on peut être maléficié, c'est ça?
Oui, oui. Je sais des histoires où des mamans ont. Parce qu'autrefois, il y a souvent la belle-mère voulait, ou la mère voulait habiller l'enfant pour le baptême. Parce que c'était elle qui avait la vieille robe de famille, etc. Et la maman, avant de partir, a déshabillé l'enfant. Et elle a trouvé des choses à l'intérieur. Voilà. Alors, quelquefois, c'était une sauterelle parce qu'elle voulait que l'enfant il puisse marcher. C'était peut-être pas très grave. Mais des fois, on trouve autre chose. Oui.
Oui. Pourtant, il y a une prière d'exorcisme pendant le baptême.
Oui, pour l'enfant, oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça marche? Ça marche si peut-être il faut que l'enfant soit éduqué, il faut que les parents soient vigilants aussi dans la foi chrétienne. Mais peu importe, tout peut arriver. Donc la méchanceté, elle peut être inspirée par Satan, la cruauté, et très forte. On n'a pas pris conscience. On croit que c'est des petites jalousies, des petites mesquineries. C'est beaucoup plus grave que ça. Ensuite, il y a l'utilisation de rites qui sont des causes d'infestation. Alors, selon les régions ou les pays. Voilà. Et ici, eh bien, dans notre région, eh bien, on peut penser que ce que je trouve quelquefois, vous avez ici des enchéridions. Enchéridions, c'est un petit livret. Le livret des secrets merveilleux, c'est de l'abbé Julio. Là, c'est aussi pareil, c'est l'abbé Julio. Ici, c'est du pape Léon. Vous avez des prières chrétiennes au départ, mais à la fin, il y a des prières magiques. Voilà. Et quelquefois, on a des prières qui sont utilisées à l'envers. Par exemple, si je prends ce qui est là-dedans, là vous avez le petit et le grand Albert que j'ai enlevé aussi dans une famille, alors c'est un peu ridicule tout ça, mais n'empêche, ça peut, parce qu'on l'a utilisé avec de la haine, ça peut avoir de l'efficacité. Les paroles sont ridicules, mais c'est de l'efficacité. Je vous donne par exemple la guérison des brûlures. Il y a des gens qui ont ce pouvoir de soulager les brûlures, oui. La formule habituelle, c'est « feu de Dieu perd ta chaleur ». Ça commence comme ça, « feu de Dieu perd ta chaleur », voilà. Mais avec quel pouvoir on donne ça? Qui vous donne ce pouvoir? Habituellement, quand je fais une prière à la messe, je dis « s'il te plaît Seigneur ». Je ne donne pas des ordres. Mais j'ai connu un monsieur qui était venu se plaindre parce qu'il avait été brûlé. J'ai dit, mais pourquoi vous plaignez d'une brûlure? Ah, mais moi, je suis un ancien mécanicien. Je bricolais ma voiture, il n'y avait rien. Et tout d'un coup, il y a eu une explosion. Il n'y avait rien pour faire l'explosion. J'ai été brûlé. Et il me dit, mais moi, je guérissais les brûlures. Alors, je lui ai dit, alors il me disait, c'est un tel qui est jaloux. Et je lui ai dit, voyons, vous aviez une formule. C'est secret, il n'aurait pas dû me le dire. Mais là, il était tellement en colère, il me l'a dit. Il m'a dit, Dieu du feu, perd ta chaleur. Et je l'ai arrêté, je lui ai dit, mais vous savez qui c'est, le Dieu du feu? Et j'y avais jamais pensé. Il invoquait Satan. Il y en a qui vont inverser aussi, c'est, perd ta chaleur, comme Judas perdit sa couleur quand il trahit Jésus par passion juive au Jardin des Olives. Et il y en a qui me disent, quand Jésus trahit Judas. Ils ont inversé. Je me souviens aussi de cette dame qui pouvait arrêter un orage. Elle le séparait. On allait la chercher. Viens vite, il y a un orage qui arrive sur le village. Elle arrivait avec un couteau et elle disait la dernière phrase du Te Deum. Alors le Te Deum, c'est un chant de louange. Alors, je donne la dernière phrase. En toi, j'espérais, Seigneur, c'est la dernière phrase, jamais je ne serai confondu dans l'éternité. En toi, j'espérais, jamais je serai confondu dans l'éternité. Mais elle le disait en latin. Elle disait, in te speravi non. En toi, je n'ai pas espéré, je serai confondu dans l'éternité. Et elle séparait le nuage avec un coup de couteau, les nuages se séparaient et s'écartaient du village. Il y avait un religieux qui l'avait regardé faire, cette femme, une fois, il dit, mais c'est pas ça. Si, 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 c'est ça. Donc, ce n'était pas une prière très chrétienne, vous voyez. Bon, alors, dans des rites. Alors, on a actuellement, bon, ici, avant, on avait un peu les excréments de sorcière, c'est une espèce de crème couleur beurre frais, percé par des trous, on dirait qu'il y a du sang, là, je ne sais pas où ils ont pris le sang, mais voilà. Moi j'en ai trouvé devant mes portes, parce que je m'étais attaqué à qui il ne fallait pas, j'en ai eu plusieurs. Quand je l'ai trouvé, immédiatement, ça ne m'a fait aucun effet, je l'ai brûlé, j'ai prié, j'ai béni, je l'ai brûlé. Quand je ne l'ai pas trouvé, j'en avais un sur une marche de mon pour rentrer à la maison, j'avais commencé à tailler des arbustes, et comme on avait mis ces branches que j'avais laissées là par désordre, on me les avait mis sur ce qu'on avait fait, je ne l'ai pas vu. Et pendant 4 jours, je n'ai pas pu dormir de la nuit. Et je ne comprenais pas, je me dis, je fais une dépression. Et pourtant, dans la journée, je faisais mon travail, mais je ne comprenais pas. Et un soir, en rentrant du travail, j'ai dit, bon, allez, ce désordre, je l'enlève, je soulève les branchages en me disant, mais je les avais taillés, mais je ne les avais pas mis là. Et dessous, il y avait donc le bébé, là, le rite. Alors, je l'ai brûlé, et dans la nuit après, bien sûr, j'ai dormi comme un enfant. Hein. Bien. Par contre, une autre fois, je l'ai trouvé un peu tard. J'avais tout surveillé, les dates fatidiques du mois de mai, parce que je les connais toutes. Bon. Et voilà que j'avais oublié le jour où la lumière arrête de grandir, c'était le 11 juin. J'arrive chez moi, je vais partir, c'est un dimanche, et voilà que je me trouve cela derrière un buisson. J'étais en train d'arroser les fleurs, mais je l'ai explosé avec le jet d'eau, j'étais en colère. Oui, mais après, j'ai dû faire très attention. J'ai failli avoir des accidents. C'est moi qui dérapais vers les gens, c'est les gens qui dérapaient vers moi, j'étais toujours à l'attention. Et même que j'ai réussi à prendre à l'Esgor la 4 voies à l'envers, sans comprendre comment je m'étais trouvé sur ce chemin. J'ai fait le retour en arrière, la marche arrière la plus rapide de ma vie, parce que j'avais une voiture qui me faussait dessus. Voilà. Bien, donc on a quelquefois des rites.
Alors, comment ça vient là, ces choses-là?
Et parce que les gens m'ont souhaité du mal, c'est pas difficile.
Oui, mais ça c'est pas, comment dire, les gens vous souhaitent du mal et puis pof, cette chose-là apparaît.
Là, je les trouve, mais je ne trouve pas toujours. Mais enfin, moi, j'en rencontre chez des gens, je sais de quoi il s'agit.
Mais
Par
est-ce que
exemple.
ce sont des gens qui les déposent?
Mais bien sûr.
Ah, d'accord.
Mais ça ne veut pas dire que on les a vus.
Oui,
Ils
d'accord.
sont peut-être venus en astral. En astral, c'est de façon invisible.
Ah.
Il y en a qui quittent leur corps. Oui. Mais ça, c'est un petit grand mystère que je préfère ne pas trop en parler. Mais c'est vrai que des fois, tenez, je vais vous montrer ici, là, j'en ai plusieurs. Ça, c'est le bas d'une porte. C'est de l'huile. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une dame qui réagissait, qui faisait le coq. C'est chez
Oui.
elle, ça. Tous les matins, elle trouvait de l'huile qui était versée sur sa porte. Donc, il y a des nuits, elle a monté la garde. Il y a des jours où il avait neigé, le matin, l'huile était là. Et il n'y avait aucune trace sur la neige pour s'approcher de sa maison. Donc, on venait lui mettre cette huile en astral. Vous voyez, ça, c'est 2 jours différents. Donc, on peut venir en astral, vous mettre un sortilège. Ça peut arriver, mais c'est un tel mystère, il vaut mieux pas s'avancer, hein.
Oui, mais c'est les gens qui envoient les sortilèges, ils savent qu'ils font des sortilèges ou
Mais
pas?
bien sûr qu'ils veulent le faire, puisqu'ils veulent faire le mal.
Ah, d'accord.
Mais bien sûr. Alors ici, nous avons maintenant, avec l'arrivée un peu de... Nous sommes au cœur du monde. Nous avons le génie des fleuves, le génie du fleuve. Ah oui. Alors ça arrive qu'il y a des gens qui, tout d'un coup, vont se trouver une pièce remplie d'eau. Et vous ne trouvez pas l'arrivée de l'eau. Alors ils vont dire, ben, il y a quelqu'un qui est venu avec un tuyau, qui a mis un tuyau, qui a rempli d'eau. Mais non. Je connais des personnes qui se sont rendues compte tout d'un coup qu'il y avait de l'eau qui jaillissait de partout. Et d'où ça sortait? De dessous leur fauteuil, où elles étaient assises, où elles étaient en train de lire ou de dormir. Et quand on a soulevé le fauteuil, ça s'est arrêté de couler. Et il n'y avait aucun point d'eau. Mais c'est dans des sortilèges très, très puissants. Parce qu'elle, c'était une dame qui dérangeait une personne africaine et sa fille, qui était la propriétaire de la maison. Elle ne vivait pas là, était à Verrier, et elle est arrivée en voiture quelques jours après, 2 ou 3 jours après, pour voir sa mère tous les matins. Elle passe voir sa mère avant d'aller au travail. Et en montant une côte pour aller chez sa mère, elle entend une roue qui se défait. Oh, j'ai crevé, mais tant pis. Elle fait les 500 mètres qui restent et elle appelle son frère. Son frère arrive. Lui qui était déjà venu quelques jours avant pour trouver le point d'où venait l'eau, on n'avait que soulevé le fauteuil et puis après enlevé 2 seaux d'eau, eh bien, elle va ouvrir pour prendre la roue le coffre est plein d'eau. Cette voiture est toute neuve, elle a 15 jours. Alors on téléphone au garagiste et le garagiste dit, mais j'ai jamais fait ça, et moi. Voilà. C'est le génie du fleuve, ça. Alors je le trouve à beaucoup d'endroits, ça. Parce que maintenant, ben, on a des gourous qui connaissent tout ça. Voilà. Ensuite, donc, alors, il y a des gens qui font des invocations de démons. Il y a des groupes satanistes, ça existe. Moi, j'ai connu des personnes qui ont participé à des groupes satanistes, qui allaient même sur, c'était des jeunes filles, pour avoir la drogue, et, ben, elles passaient sur la table, elles m'ont raconté des cérémonies horribles, scabreuses, enfin, tout ça. Comment l'invocation de Satan était menée, et qu'on faisait des prières à Satan, parce on avait dû, je pense, verser un produit chimique au centre de la pièce qui s'enflamme qu'au bout d'un moment. Et tout d'un coup, la flamme, elle montait, là. Et tout, voilà. Donc Satan était bien là. Et après avoir fait des prières à Dieu, ou à Satan, en fait, c'était prévu, des rites. Et voilà qu'après, chacun faisait sa prière. Il y en a qui demandaient la mort des parents. Oui, mais les parents ont eu un accident, ils sont morts tous les deux. Et je me souviens. Mais je ne savais pas pourquoi. Je l'ai appris plus tard. Des prêtres. Alors, des prêtres ont été malades. Alors, en cascade, là. Hein, ça, c'est vrai. Voilà. Donc, il y avait des résultats comme ça. J'ai visité des chambres de jeunes où trônait. Alors, parce que la maman m'avait appelé, qu'il y avait des problèmes. Et j'arrive dans la chambre. Et qu'est-ce que je vois? Je vois d'abord. Une statue d'un ange, mais d'un grand ange noir, avec une poitrine et les grandes ailes qui touchaient jusqu'à par terre, alors que les anges, habituellement, ils ont des petites ailes. Et c'est Lilith. Lilith, c'est la femme du démon. C'est celle qui a été remplacée par Ève. Voilà, bon. Et donc, il y a des gens qui font ce culte-là, et bien sûr, après, le pauvre jeune, il n'avait pas une belle santé, etc. Hein? Il y a d'autres portes ouvertes. Alors, je suis toujours à dire quelles sont les causes des infestations. Ben, il y a des portes ouvertes. Si vous vous amusez à faire du spiritisme, un jour, il peut se passer quelque chose que vous n'avez pas prévu. Il y a du tarot. Des fois, des personnes viennent me montrer qu'elles sont très bonnes avec les cartes là, de voyance, là, tout ça. Et j'ai dit, oui, mais ça, vous vous inventez des réponses. Mais non, mais non, mais non. Il n'est pas impossible que... Ça m'est arrivé une fois en jouant à la belote, j'ai eu toutes les cartes, plusieurs fois, j'avais toutes les cartes du jeu les plus fortes. C'était pas possible, on avait mélangé les cartes. C'était pas possible. Moi, je les avais toutes, et les autres, ils n'avaient rien. Donc, dans le tarot, on peut avoir un talent pour ça. Il y a les mancies, c'est des sortes de divination. Il y a la médiumnité. Alors, il y a des gens, parce qu'ils croient. Ils voient quelque chose bouger, ils pensent qu'ils deviennent les maîtres du phénomène. Quand certains disent, ah, les âmes sont parmi nous, mais il n'y a pas d'âme. C'est Dieu qui est maître des âmes. On va au ciel, au purgatoire, à l'enfer, et n'en sort qu'avec sa permission. Alors quand certains des médiums s'amusent à ce petit jeu-là, eh bien en fait, ce sont des démons, nous disait le Padre Pio. Mais ne plaisantez pas, ce sont des démons qui se font passer pour des âmes. Voilà. Victor Hugo, il s'était amusé à Guernesey, quand il était en exil à Guernesey, à faire tourner une table le soir. Mais le jour où son oncle est devenu fou, la table est partie à la cave. Hein? Voilà. Ensuite, d'autres portes ouvertes, eh bien, c'est qu'à force d'aller voir des guérisseurs, quelquefois le guérisseur, il vous dit, mais vous avez autant de dons que moi. Et c'est que ça marche. À force de fréquenter quelqu'un, c'est comme si je touche quelque chose de radioactif. Je peux avoir un don que j'ignorais. Oui, mais le don, il peut nous combler. Il peut nous donner l'impression qu'on est quelqu'un d'extraordinaire. Mais on commence à accumuler des problèmes, des drames et des morts subites. Et ça, ils s'y attendent pas. Voilà. Alors, j'ai vu des gens qui, ils ont été des clients qui m'ont révélé des séances sexuelles de plusieurs guérisseurs. Plusieurs. Ils ont essayé de ne pas y revenir, mais il n'y avait rien à faire. Si c'était le 25 du mois, il fallait y repartir quand même. Et ça recommençait. Je ne suis pas étonné quand j'apprends qu'un grand guérisseur qui a beaucoup de monde et qui est surpris par une mort subite. Hein.
Est-ce que les saints peuvent être sous emprise démoniaque?
Eh bien oui, et oui. De nombreux saints ont été tourmentés d'abord physiquement, psychologiquement par le démon. Quand le démon s'aperçoit, découvre qu'une personne est appelée à une haute perfection de sainteté, qu'il pressent l'accomplissement de hautes œuvres par sa prière, eh bien il peut lui opposer un acharnement féroce. Bon, je crois que les chrétiens ont entendu parler du curé d'Ars, du Padre Pio. Il y en a beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, il y en a de bien cachés. Je les appelle, moi, des âmes victimes de l'amour. Quand le Seigneur ne peut pas répondre à son amour, dans le monde, autrefois, dans l'Ancien Testament, il se prenait un prophète, un homme, une femme, et il se rattrapait dans l'âme de ce prophète. Aujourd'hui, mais avec l'Église, eh bien, il prend des âmes victimes de l'amour. Et notre rituel en parle. Le mystère de la bienveillance divine nous devient plus difficile à comprendre lorsqu'avec la permission de Dieu, il arrive parfois des cas de tourment ou d'obsession de la part du diable à l'égard d'une personne agrégée au peuple de Dieu illuminé par le Christ pour marcher un enfant de lumière pour la vie éternelle. Le mystère d'iniquité qui est à l'œuvre dans le monde se manifeste clairement. Donc, il y a des personnes qui sont tourmentées par le démon. J'en accompagne quelques-unes. Et je puis vous dire que ces jours-ci, certaines souffraient. Il y a des souffrances du jour, il y a des souffrances de la nuit qui disaient, il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose. Et je me souviens, il y a 3 ans, c'était, ou 2 ans, 3 ans, c'était la veille, le jour du 14 juillet. Elle souffrait tellement, il va se passer quelque chose. Et ils se sont retrouvés aux urgences à 3 heures du matin. Et il y a eu le drame de Nice, là. Hein, voilà. Elle porte le mal. Elle porte le mal. Voilà. Donc c'est un très grand mystère. On ne peut pas empêcher l'œuvre de Dieu, mais il faut être là pour les accompagner, les soulager parfois. C'est un... Parce que bon, même si elles ont beaucoup de bruit dans les maisons, des choses qui se détractent, tout ça, et que des fois d'autres constatent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elles sont tellement habituées, elles disent non, rien, c'est rien, c'est rien. Bon, voilà, elles sont habituées, elles. Mais il y a surtout le combat d'esprit à esprit. Tout d'un coup, elle dit, mais je crois que je deviens folle. Je sais plus rien, je crois plus rien, j'espère plus rien. Et ça peut durer un certain temps. C'est terrible, ces moments de vide intérieur. Et quelquefois, quand j'arrive, que je dis, ah ben, ça va, oui, oui, ça va. Oh, mais vous avez entendu, il y a tel problème. Il faut prier. Je vais prier. Ah oui, vous voulez prier pour cette intention, alors préparez-vous à souffrir. Je ne me trompe jamais. Voilà. Hein. Donc oui, actuellement, il y a des gens qui portent, qui participent au salut du monde, qui sont des souffrances, pas une crucifixion. Mais c'est très cruel. Et surtout qu'elles sont ignorées, quelquefois elles sont... Et mystérieusement, il y a des gens qui disent du mal de ces personnes sans les connaître. Eh bien, après 20 ans, je dois dire quand même que ce problème du mal, moi je l'appelle le mystère du mal. L'Église parle du mystère d'iniquité. Eh bien, il nous dépasse. On a beau essayer de le comprendre. On a l'impression de ne rien pénétrer, tellement c'est un mystère qui est insondable. Nous devons accepter de ne consentir qu'aux affirmations de la foi. Mais la révélation n'a pas jugé bon de tout nous dire. Donc ce n'est pas la peine d'essayer d'en prétendre, d'en savoir plus. Mais cela ne doit pas nous effrayer. C'est le Christ qui a vécu les œuvres du malin, la souffrance et la mort. D'ailleurs, quand je reçois des personnes dont je porte une certaine inquiétude après, ma meilleure prière, je la fais au moment de la messe. C'est toujours au moment de la consécration quand je dis le Père, le pain livré pour vous, le sang versé pour nous. C'est là que moi personnellement, je crois que fait la meilleure prière de mon ministère d'exorcisme. Voilà. Et je me rappelle de cette affirmation de Jean-Paul II, dans l'histoire de l'humanité est inscrite la victoire du Christ sur le prince de ce monde.
Eh bien, merci
Je vous
beaucoup.
Ai porté